Bon, ben merci beaucoup. Et maintenant, nous allons accueillir Déborah Azoulay, donc, qui a participé à l'enquête que nous avons mise sur pied l'année dernière, du 12 mai au 15 septembre, où nous avons reçu 4535 réponses. Donc, Déborah fait sa thèse sur la fibromyalgie en fin d'année, je crois, c'est en octobre. Hein.
Oui.
Oui, voilà. Donc, c'est sur la médecine du travail. Donc, comme quoi, vous voyez, il va y avoir des médecins du travail qui vont être formés à la fibromyalgie. Donc, c'est vrai qu'il faut garder une activité professionnelle. Et plus nous avons une activité professionnelle, plus nous sommes en activité, mieux c'est. D'abord, on pense beaucoup moins à la douleur. Plutôt que de rester replié chez soi, dans sa coquille, sous la couette, comme je dis bien souvent, les malades nous disent « je ne peux pas me lever, ni rien ». Et ce n'est pas en restant sous la couette que ça ira mieux. Hein. Et donc les résultats de cette enquête sont assez spectaculaires. Et nous-mêmes, par rapport aux appels téléphoniques que nous recevons ou aux demandes par mail, on a été sidérés. La preuve que les 4535 personnes qui ont répondu ne sont peut-être pas les mêmes que celles que nous avons régulièrement dans les plaintes. C'est bon, Déborah.
Voilà. Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de l'enquête nationale sur la fibromyalgie réalisée en 2014 et plus particulièrement la partie qui concerne la fibromyalgie et le travail. Donc, l'enquête a été réalisée et financée par deux associations de patients, l'AFLAR et Fibromyalgie SOS. Alors, pourquoi moi je me suis intéressée à la fibromyalgie et le travail ? Parce que, parce que justement, il y a beaucoup de répercussions, il y a des répercussions importantes du fait de la fibromyalgie, notamment sur le plan personnel, familial et professionnel, avec des conséquences économiques non négligeables, aussi bien pour le patient que pour la société et l'employeur. Le maintien au travail est essentiel pour ces patients. Il y a des études qui ont montré que c'était un facteur important de qualité de vie et un facteur de bon pronostic. Mais le problème, c'est que parfois, il est limité du fait de la fibromyalgie qui entrave l'exécution des tâches et limite les déplacements dans certains cas. Alors, pour favoriser ce maintien au travail, les médecins du travail mettent en place des mesures d'aménagement de poste qui sont malheureusement souvent centrés sur la situation de travail et ne prennent pas en compte d'autres facteurs tels que les situations familiales ou l'entourage professionnel. Donc, et d'autre part, il y a peu d'études qui ont été réalisées en France sur la fibromyalgie et le travail. Alors, l'objectif de ce travail, c'était d'évaluer les différences au sein d'une population de femmes fibromyalgiques françaises selon leurs différents statuts professionnels. Et le but, à la fin de tout ça, c'était de mettre en évidence des facteurs qui pouvaient expliquer la désinsertion d'un grand nombre de patientes au travail. Donc, c'est une étude transversale de femmes volontaires fibromyalgiques qui ont été recrutées par Internet. Le recueil des données s'est fait via un questionnaire standardisé où on a recueilli des données sociodémographiques, des données sur la situation professionnelle, sur les antécédents, sur les symptômes ressentis, les répercussions liées à la fibromyalgie et la prise en charge thérapeutique. Je tourne mes notes. Alors, les critères d'exclusion de notre étude, on n'a pas inclus tous les patients, hein. On n'a pas inclus les 4500 patients, ça faisait trop et voilà, on a exclu les hommes parce qu'il y a un biais, lié au sexe, on a exclu les femmes ayant un score de FIRST qui est un questionnaire de dépistage inférieur à 6 sur 10. On a également exclu les femmes sans emploi et ayant une invalidité ou n'ayant jamais travaillé Alors, on a fait ce choix afin de sélectionner les personnes inactives pour cibler sur les personnes à la recherche d'un emploi, qui étaient dans une recherche active d'emploi. Et les femmes n'étant pas en âge de travailler, moins de 18 ans et plus de 67 ans. Et alors, on s'est attaché à comparer les actifs versus les inactifs. Et puis, parmi cette population active, on a comparé les actifs temps plein, les actifs temps partiel et celles qui étaient en arrêt de travail, qu'on a inclus dans la population active. Alors, les résultats de cette étude. Donc, concernant la comparaison des actives et des inactives, on a montré que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a quand même plus de 84% des patientes qui étaient en activité professionnelle. Elles sont légèrement un peu plus âgées que les inactives. Sinon, concernant les autres caractéristiques socio-démographiques, on a observé une proportion plus importante de personnes en couple et ayant des enfants chez les actives, avec des enfants à charge, une proportion similaire de patientes ayant des enfants à charge dans les deux groupes. Je prends mes petites notes, excusez-moi. Au niveau des symptômes, dans ces deux groupes, on n'a pas montré de différence significative entre les deux populations. Les proportions de personnes ayant des douleurs et ressentant de la fatigue étant à peu près similaires. Il y a plus de la moitié des patientes qui déclaraient avoir une dépression associée. D'autre part, l'impact et la répercussion des activités de la vie quotidienne sur la fibromyalgie étaient à peu près similaires dans les deux groupes. Ils se sentaient de façon générale améliorés par l'activité de loisir, la relation de couple et le repos, et se sentaient plutôt détériorés dans les activités physiques, les déplacements par les activités physiques, les déplacements et le stress. Voilà, au niveau des douleurs, ils évaluaient leur douleur de façon importante dans les deux groupes, sans différence significative. Et en termes de qualité de vie, la qualité de vie a été évaluée grâce au FIC, qui est un questionnaire d'impact de la fibromyalgie, et là aussi, elle mettait en évidence que les inactifs paraissaient avoir une moins bonne qualité de vie que les actifs. Alors, au niveau de la situation sociale, moi, je me suis limitée à l'obtention de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc là, on observe que dans les deux populations, c'est à peu près similaire. Il y a plus de 70% qui ont été reconnus en tant que qualité de travailleur handicapé. Et parmi les actifs, seuls 17% ont été reconnus en invalidité. Au niveau de la situation antérieure professionnelle chez les inactives, donc là, on se rend compte qu'il y a quand même une grosse majorité de patients inactifs qui ont perdu leur emploi du fait de la fibromyalgie. Il y a plus de 58% des patientes inactives et elles occupaient antérieurement des postes en CDI, plutôt. Voilà. Alors, en termes de coûts, il y a un entrave au suivi des soins recommandés chez plus de 82% des inactives contre 73% des actives, donc un peu plus importante chez les inactives, avec dans la majorité des cas des dépenses estimées entre 50 et 100 euros par mois. Alors, au niveau de la comparaison des actifs temps plein, actifs temps partiel et celles en arrêt de travail, alors, ce qu'il faut que je précise quand même, c'est que malheureusement, les personnes en arrêt de travail n'ont pas répondu à certaines questions professionnelles du questionnaire. Enfin, sur la situation professionnelle du questionnaire, on dispose que des données pour les actifs temps plein et les actifs temps partiel. Alors là, on voit que les personnes en arrêt de travail sont quand même en proportion importante. Il y en a plus de, il y en a 41%. Et on remarque qu'il y a 89% qui sont en arrêt depuis plus de 3 mois et 62% qui sont en arrêt depuis plus d'un an. Donc, ce qui laisse présager qu'un retour dans l'emploi un peu difficile pour ces personnes. Au niveau des symptômes, globalement, ils sont à peu près tous douloureux et ressentent tous de la fatigue, mais on observe qu'il y a une proportion quand même plus importante d'algiques et de patients fatigués parmi les personnes en arrêt de travail. Voilà, et également avec des troubles du sommeil un peu plus importants que les autres catégories d'actives. D'autre part, on remarque que les actifs temps plein, présentent moins de troubles cognitifs que les autres. Également, au niveau chez les personnes en arrêt de travail, il y a une proportion plus importante de personnes sans période de rémission par rapport aux personnes actives temps plein et actives temps partiel, et avec des dépressions en proportion plus importante et que les actifs temps plein et les actifs temps partiel. Au niveau de l'évaluation de la douleur, ils sont à peu près tous algiques de façon importante, mais là aussi, on observe que les personnes en arrêt de travail sont quand même évaluent leur douleur de façon plus importante que les autres. Au niveau des répercussions cliniques, on observe que, de façon générale, il y a une amélioration de la fibromyalgie grâce aux activités de loisirs et au repos, qui est quand même un peu moins importante pour les personnes en arrêt de travail, et que l'amélioration qui est observée par le fait de mener une vie de couple n'est pas observée pour ceux qui sont en arrêt de travail. D'autre part, on a remarqué qu'il y avait une détérioration de la fibromyalgie qui était plus importante chez celles en arrêt de travail, notamment lors de la réalisation d'activités physiques, par les déplacements et par le stress, et qu'il y avait un impact important de la fibromyalgie sur le moral, la vie de famille, la vie de couple, et puis les activités sociales et de loisirs. Oui. C'est juste pour dire qu'il y a une différence significative entre les groupes. C'est des tests statistiques. Faut juste regarder les proportions. Ça sera peut-être voilà. Mais plus si le petit p est inférieur à 5%, on considère que la relation est forte et donc que ça appuie finalement la relation. Ah pardon, excusez-moi. Je me remets dans mon diaporama. Je n'arrive pas. J'espère que ça va marcher. Au niveau de l'impact et des répercussions professionnelles, j'espère que... Non, j'ai pas oublié. Si, j'ai... Voilà. Au niveau de l'impact sur la qualité de vie, on a observé également que, justement, chez les personnes en arrêt de travail, elles semblent être en moins bonne qualité de vie, avoir une moins bonne qualité de vie que les autres catégories de travailleurs. On remarque que le score de FIC est un peu supérieur par rapport aux autres catégories. D'autre part, on a observé qu'il y avait des difficultés au travail liées à la fibromyalgie dans plus de 97% des cas chez les actifs temps plein et 96% des cas chez les actifs temps partiel. Donc c'est une proportion importante, avec un impact important et significatif de la fibromyalgie sur la vie professionnelle et notamment chez les personnes actives temps partiel et les personnes en arrêt de travail. Le travail est ressenti comme étant délétère par les patientes, quels que soient les groupes, et la maladie limite beaucoup la quantité de travail fournie et entrave le déroulement de la carrière, surtout pour les personnes à temps partiel. Donc, ce qu'on a remarqué également, c'est qu'il y avait des difficultés de reconnaissance de la fibromyalgie par le médecin du travail dans 21% des cas chez les actifs, pardon, par l'entourage professionnel dans 58% des cas, et par l'employeur, notamment pour les personnes en arrêt de travail et celles qui sont actives temps plein. D'autre part, les personnes qui sont en activité ne se sentent pas soutenues par leur médecin du travail ni par leurs collègues. Alors, concernant les activités professionnelles exercées, on a remarqué qu'il y avait une grosse proportion de personnes exerçant des professions sédentaires dans plus de la moitié des cas, sans gestes répétitifs et avec une position assise prolongée. Au niveau des contraintes posturales et des risques professionnels, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Concernant les risques professionnels, les travaux exercés étaient en proportion identique chez les actifs temps plein et les actifs temps partiel. Concernant les travaux exposés aux nuisances thermiques, au bruit, au port de charges lourdes, les travaux sur ordinateur, on n'a pas remarqué de différence entre les groupes. Également, pas de différence significative entre les groupes concernant les contraintes posturales. Au poste de travail, ils étaient exposés de façon similaire aux travaux avec des contraintes physiques, des contraintes liées aux positions de torsion, avec des appuis forcés sur une ou plusieurs articulations, etc. Au niveau des mesures d'adaptation de poste, on observe qu'il y a une grosse majorité des personnes qui sont actives à temps plein qui ne bénéficient pas de mesures d'adaptation professionnelle. Et que parmi la population qui en bénéficie, ce sont principalement les personnes actives temps plein qui bénéficient des mesures d'aménagement d'horaire, donc ça se comprend. Et puis sinon, c'est à peu près similaire en termes de reclassement sur poste dans les deux groupes. Par contre, au niveau des aménagements matériels, il y a à peu près la moitié des mesures qui sont faites à ce niveau-là. Alors, au niveau du rythme des visites chez le médecin du travail, on s'est intéressé à ce point et on a observé qu'il y avait quand même 78% des actives temps plein qui n'ont rarement ou jamais été vues par leur médecin du travail, contre 45% des actives temps partiel, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Voilà. Et on s'est également intéressé aux arrêts de travail pris au cours des 12 derniers mois. Et là, on a observé qu'ils étaient majoritairement pris par ceux qui étaient à temps partiel. 85% étaient à temps partiel qui ont pris un arrêt de travail contre 64% d'actifs temps plein. Et donc par la suite, on a analysé la fréquence et le nombre de jours d'arrêt pris au cours des 12 derniers mois. Et là aussi, sans surprise, par rapport aux résultats précédents, là, on a observé que justement, ils étaient plus importants chez les temps partiels thérapeutiques, chez les temps partiels, pardon, que chez les actifs temps plein. 122 jours pris d'arrêt au cours de l'année pour les personnes actives temps partiel, contre 37 chez celles à temps plein. Donc, en conclusion, il y a quand même 87% des personnes qui sont encore en activité dans notre population de femmes fibromyalgiques. Cependant, il y a quand même un impact important et significatif de la fibromyalgie sur la vie professionnelle qui a été démontré dans notre étude, avec 58% des inactives qui ont perdu leur emploi à cause de la fibromyalgie. Dans cette étude, on a mis en évidence également des difficultés au travail liées à la fibromyalgie, avec des difficultés de reconnaissance de la fibromyalgie et un manque de soutien ressenti de la part du médecin du travail, de l'entourage professionnel et de l'employeur. Il y a plus de 78% des patientes actives temps plein qui n'ont jamais ou rarement été vues par le médecin du travail, comme je disais, et 69% des actifs temps plein qui n'ont pas, pour lesquels elles n'ont pas bénéficié de mesures d'aménagement de poste. D'autre part, il y a une proportion importante de personnes en arrêt de travail, 41% de la population active, ce qui est important. Et dans cette population, on a observé une majoration de la fréquence des troubles du sommeil, des troubles cognitifs et des dépressions, comparativement aux actifs temps plein et actifs temps partiel. Elles semblent légèrement plus algiques et présenter une moins bonne qualité de vie que les deux autres groupes. D'autre part, il y a une proportion importante d'actives ayant pris un arrêt de travail au cours des 12 derniers mois. On a dit qu'il y en avait 85,9% des temps partiels thérapeutiques contre 64,5% des actifs temps plein. Et que, les actifs temps partiels semblaient présenter des difficultés au travail un peu plus importantes que les actifs temps plein, avec une fréquence et un nombre de jours d'arrêt au cours des 12 derniers mois majorés. Donc au final, l'impact de la fibromyalgie sur le travail semble important dans cette étude. L'encadrement et le suivi de ces patientes par le médecin du travail et le milieu professionnel semblent insuffisants au vu des résultats de cette étude. Et donc là, il y a des analyses complémentaires qui sont en cours afin de rechercher des associations entre justement la prise d'arrêt de travail et certains critères cliniques, professionnels et de qualité de vie au sein de la population active. Voilà. C'est fini. Je vous remercie beaucoup.